Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 8h19 et notre invité, c'est la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. C'est formidable la transition parce qu'on découvre des nouvelles énergies tous les jours. On redécouvre le nucléaire, on parle de solaire, on parle d'éolien. Et ce matin, on va commencer, on a beaucoup de sujets avec vous, on va commencer par la géothermie parce que vous allez présenter ce plan ce matin, vous en donnez la primeur. On va notamment tous pouvoir creuser des trous dans son jardin pour se chauffer, c'est ça l'idée?
C'est à peu près ça, Christophe Jacobizine, bonjour à tous. Oui, le plan géothermie, c'est nous donner accès à une énergie verte, inépuisable, sous nos pieds, puisque ce sont des forages qui donnent accès à une eau qui a une température très stable et qui rafraîchit l'été et chauffe l'hiver. C'est ça l'idée. Et en fait, ce potentiel, il représente chaque année, en termes de développement, l'équivalent du chauffage au gaz de 500 000 ménages. Donc c'est gigantesque.
Ça a l'air presque magique. C'est gratuit, inépuisable, mais ça demande quand même des investissements colossaux et puis ça peut pas se faire partout.
Alors, ça peut se faire dans beaucoup d'endroits en France à titre individuel, c'est-à-dire une installation individuelle. Ça va être des projets où vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas creuser en profondeur et votre pompe à chaleur va être plus efficace qu'une pompe à chaleur classique. Mais c'est plus coûteux à l'investissement et c'est pour ça que nous avons mis en place des aides complémentaires. Ça peut aller jusqu'à 16 000 euros de financement de ces pompes à chaleur par géothermie pour les ménages les plus modestes. Donc c'est 90% de la facture que nous prenons en charge. Et pour les ménages qui gagnent mieux leur vie, on va dire, ça peut aller jusqu'à 40%. Donc c'est déjà beaucoup de l'investissement.
Et il y aura un minimum pour tous les ménages, je crois, quel que soit leur revenu, de 5 000 euros, c'est ça?
On accompagne jusqu'au 8e décile, c'est-à-dire en gros 80% de la population. On peut penser que les 20% restants sont en capacité de trouver l'équilibre économique de ces investissements.
Alors, amorcer la demande, c'est bien, mais il faut aussi que derrière, toute une filière soit prête. Est-ce qu'on a les formations, les entreprises, les appareils, les chaudières?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les entreprises, on a les briques technologiques en France. Donc, on a tous les éléments d'une filière. En revanche, on n'a pas encore aujourd'hui la taille critique et c'est l'enjeu à la fois de rendre visible cette énergie qui est particulièrement intéressante au moment du réchauffement climatique puisqu'elle chauffe, mais elle rafraîchit aussi.
L'été.
Et on sait combien de besoins de refroidissement on va avoir besoin dans les périodes de canicule. Et puis, deuxièmement, elle va se développer partout en France. Donc, on a des briques technologiques, mais on a besoin de former, notamment des foreurs, et nous allons créer des écoles de forage. C'est la même chose, hein, grosso modo, que ce qu'on a fait dans l'entreprise, dans le monde pétrolier et gazier. Simplement, on le met au service d'une énergie verte.
Quand vous êtes un ménage aujourd'hui, c'est quand même pas facile de s'y retrouver quand on veut passer au vert. Entre je mets des panneaux solaires dans mon jardin, la géothermie, j'ai des gens qui m'appellent toute la journée pour me proposer des nouvelles fenêtres. Comment on fait clairement? On dit, on va pas tous devenir des spécialistes des énergies renouvelables.
Alors, effectivement, vous avez complètement raison. Il faut s'adresser. Nous avons déployé 500 points sur le territoire français. Physique, vous avez un accueil pour vous accompagner sur les solutions de rénovation thermique et plus largement de comment je fais face pour passer au vert, parce que comme ménage, vous avez beaucoup de ménages qui veulent prendre leur part de la transition énergétique, lutter contre le réchauffement climatique et puis baisser la facture, hein, je pense que c'est très concret aujourd'hui, et baisser la facture durablement. Et donc, dans ces points d'accueil, vous avez des conseils, vous avez également le site en ligne autour de la rénovation thermique et vous avez des numéros verts qui répondent, je le précise, puisqu'on les a testés. Et nous sommes là avec l'Agence nationale de l'adaptation de l'habitat pour accompagner l'ANA, pour accompagner tous ces Français. On a 5000 conseillers qui sont déployés sur tout le territoire, 1800 particulièrement sur ces enjeux-là.
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, est-ce que vous aussi, il y a un numéro vert pour vous? Parce que j'imagine, quand on est ministre de la Transition énergétique, on doit être perplexe face à toutes ces évolutions, la géothermie, l'électrification, à marche forcée, notamment de l'automobile. Certains constructeurs rushing disent qu'on va trop vite. L'hydrogène, il y a un salon qui se tient en ce moment sur l'hydrogène. On en a parlé dans les journaux. On reçoit beaucoup d'entreprises qui sont sur cette filière. Est-ce que vous, en tant que ministre, vous êtes sûr de faire les bons choix? Comment vous faites pour faire les bons choix, pour savoir où est-ce qu'on met tous les milliards, dans quelle énergie on les met?
Alors, c'est une course contre la montre. C'est la première chose. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle est en train de se jouer la partie de réchauffement de notre planète fait que nous devons absolument mettre la démultiplier. Et vous savez, depuis que je suis installée à mon poste, j'ai pris 36 textes, voté 2 lois et une troisième sur le nucléaire est en cours. Donc, loi d'accélération sur les énergies renouvelables, loi
avec
sur
beaucoup de simplifications administratives, notamment pour implanter des champs éoliens.
Exactement, avec des simplifications, avec aussi le choix de dire on va mettre des panneaux photovoltaïques sur ce qui est déjà artificialisé, parce qu'à un moment, ça permet de concilier biodiversité et changement climatique. Il faut faire attention à ça. Donc, vraiment une accélération, une division par deux des délais d'instruction des projets éoliens marins. Mais on a pris des mesures pour réduire les temps de contentieux. Donc, on a vraiment fait un
travail. Mais vous êtes sûr qu'on fait les bons choix, l'électrification, l'hydrogène?
Et donc, pour aller dans votre direction, comment on fait les choix? On regarde tout simplement ce qu'on appelle le coût de la tonne évitée. Et ça permet de choisir, je dirais, territoire par territoire, ce qui est le mieux adapté. Lorsque votre coût de la tonne évitée est à 80 euros, si vous faites un projet de photovoltaïque et que le coût de la tonne carbone est bien de 80 euros, vous vous dites, c'est bon, je suis dans les clous. Si effectivement, vous avez des projets qui sortent à 250 euros du mégawattheure, donc l'unité de production d'électricité ou de chaleur renouvelable, là, vous vous dites, je suis peut-être encore un peu loin ou c'est pas le projet à privilégier. Donc, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de donner à tous les élus locaux les éléments d'aide à la décision, qu'ils aient une notion de leur potentiel en termes de production d'éoliennes, de leur potentiel, de ce qu'on appelle le cadastre solaire. Tous les élus locaux ne sont pas égaux devant l'ensoleillement. De leur donner les éléments sur leur production sur leur territoire, sur leur consommation, en intégrant la consommation de carburant et la consommation de gaz.
C'est un prêt à l'emploi.
C'est la boîte à outils pour qu'on prenne les meilleures décisions ensemble. Et ça ne sera pas le ministère de la Transition énergétique qui prendra évidemment toutes les décisions. Moi, il me semble que c'est à chacun d'entre nous, vous mentionnez les ménages, mais les entreprises aujourd'hui ont une boîte à outils. Elles peuvent faire de la géothermie pour chauffer, refroidir une zone d'activité. C'est possible, il faut aller un peu plus loin, mais c'est possible et ça vaut le coup d'être regardé. Mais on peut faire de l'autoconsommation collective. Vous avez l'entrepôt qui met les panneaux photovoltaïques et qui va servir toutes les entreprises de la zone. Donc tous ces projets doivent être portés et pour que ça fonctionne, il faut avoir effectivement les bons éléments de coût. Parce que attention aux projets qui coûtent trop cher, on perd en compétitivité, mais également les bons éléments en termes de procédures administratives et l'appui des préfectures. Et vous savez que tous les préfets sont aujourd'hui mobilisés au service des énergies renouvelables.
Il y a l'aspect également sobriété. On a réussi à baisser de 10% globalement la consommation des ménages et des entreprises. On est arrivé à un pic. On ne peut pas aller plus loin sans détruire les outils de production.
Alors, je ne le crois pas du tout.
Il y a de la réserve.
On est vraiment aujourd'hui dans la partie qui a été la plus facile en termes de sobriété. Et qu'on soit clair, la sobriété, ce n'est pas attaquer la production. D'ailleurs, les mesures que nous prenons en matière de sobriété, ce sont des mesures qui visent à réduire l'énergie qui est gaspillée. Je ne demande pas à une usine qui a besoin d'un four de baisser la température de ce four. Ça n'aurait aucun intérêt. En revanche, réfléchir à la façon d'organiser l'atelier peinture et se dire que plutôt que de le démarrer et de l'arrêter tous les jours, on peut faire une production continue sur la moitié de la semaine, ce qui évite de gaspiller l'énergie à chaque fois qu'on éteint et qu'on allume, c'est des choses que certaines entreprises nous proposent. Et on voit qu'on peut aller plus loin. Et je porterai pour le président de la République et la Première ministre, effectivement, un plan sobriété étape 2. Parce que c'est énorme ce qu'on peut économiser. Je vous donne juste un exemple. Au point le plus froid de cet hiver, qui était le 12 décembre dernier, où notre système électrique était en tension. Grâce à la sobriété, nous avons économisé l'équivalent de la production de 7 réacteurs nucléaires. Ah oui. Aujourd'hui, notre grand
ça
projet,
bien.
C'est 6 réacteurs en construction. Vous voyez bien que c'est énorme.
Encore une dernière question, parce que demain, vous réunissez à nouveau à Bercy les fournisseurs d'énergie, voir s'ils appliquent cette fameux plafond, les 280 euros, la renégociation des contrats. Juste une question, est-ce qu'ils jouent le jeu, les fournisseurs d'énergie?
Alors, ils jouent le jeu parce qu'ils ont fait... Alors, à notre demande, ça a été une discussion effectivement très très directe.
Très musclée.
Mais ils ont tous proposé un avenant à leurs clients pour plafonner le prix de l'énergie à 280 € du mégawatt-heure.
Ouais. Il y a beaucoup de TPE qui nous écrivent et qui nous disent ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas, on n'a plus la réponse.
Il faut qu'ils répondent. C'est difficile pour que ça fonctionne, parce que ça sera sur la facture de janvier qui n'est pas encore arrivée chez les TPE. Par contre, moi je mets une alerte. On constate que nous n'avons que 200 000 TPE qui se sont signalés auprès de leurs fournisseurs.
Il faut
répondre au mail, cocher la case, c'est une case à cocher sur votre espace client, mais faites-le parce que ça sera tout de suite sur votre facture de janvier. N'attendez pas la facture de février, ça serait trop dommage, vous allez avancer de la trésorerie inutilement.
Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été l'invitée de Good Morning Business.